de philosophie de la nature par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 17 décembre 1992.
Simplement, je vous indique comment il faut travailler. morale. Je veux faire ça. J'ai pris une décision à la fin de la retraite de me lever tous les jours à telle heure. Ça tient. Sauf tel jour où j'étais très fatigué. Je renvoyais promener le réveil. C'était plus fort que moi. C'est une excuse. Mais vous avez décidé, la décision, l'imperium, passé à l'acte. Là, vous saisissez ce que c'est que la cause efficiente. Ou dans un acte d'obéissance. Vous avez décidé d'organiser votre journée de telle façon. Parce qu'il fait beau aujourd'hui, journée tranquille, je vais travailler beaucoup, journée de désert, c'est merveilleux, je ferai ce que je veux là. Ce que le Saint-Esprit veut, mais ça veut rien, ce que je veux aussi. Avec le Saint-Esprit, et puis patatras, vous rencontrez le Père Maître, ou le prieur qui vous dit, indispensable aujourd'hui, vous devez aller à la cuisine. Tout est tombé. Causalité efficiente. Je vais obéir. Alors, où vous êtes obéissant, vous grincez des dents intérieurement. Extérieurement, rien ne se voit. Vous êtes parfait. Mais intérieurement, ça boue. Avant le feu. Et toute la matinée. De Dieu est là, et puis ça passe. Vous êtes au travail, généreusement. Causalité efficiente. Causalité efficiente. Vous mettez tout votre courage à accomplir la chose. Chaque fois que la cloche sonne, faites un acte de causalité efficiente, d'obéissance. C'était prévu, c'était plus facile. Et vous dites au Père Prieur une fois, avertissez-moi un petit peu avant, parce que c'est rude quand c'est comme ça. Oui, mais c'est justement l'obéissance, c'est que ça vous tombe comme ça, comme la guillotine. Ça vous coupe la tête. Causalité efficiente, au point de vue politique. Causalité efficiente, au point de vue politique. Pour vous observer les lois. Passez pas la vitesse. Vous observez les priorités. Et ainsi de suite. Causalité efficiente. Qui est toujours finalisée. Dans l'obéissance. Et alors vous passez ensuite à la causalité efficiente de la nature. Et si vous n'avez pas découvert la causalité efficiente au niveau artistique, au niveau volontaire, au niveau politique, vous n'arriverez pas à la découvrir au niveau spéculatif. Parce que vous restez dans un chaîne causalité efficiente. Et vous n'arrivez à comprendre qu'il peut y avoir une causalité efficiente immanente. Qu'est-ce que c'est que la causalité efficiente? La causalité efficiente, c'est le point de départ d'un devenir. Ordonner vers une fin. Alors vous commencez à comprendre que la causalité efficiente de la nature, c'est cette détermination immanente de la nature vis-à-vis d'un devenir, d'un mouvement. Finaliser. Alors c'est beaucoup moins visible, c'est dur, c'est beaucoup moins visible que la causalité efficiente de l'artiste, parce qu'elle est immanente. Mais vous pouvez comprendre, à ce moment-là, c'est pas vous qui êtes cause efficiente, c'est la nature. Ce fait naturel, vous le regardez, vous le constatez. Vous n'avez pas donc une connaissance immédiate de cette causalité efficiente. cause efficiente. C'est la nature. Et la nature, c'est pas vous. Même quand vous tombez de l'escalier, que votre corps subit le poids de la loi de la pesanteur, loi donc naturelle, et vous dégringolez, vous avez l'expérience d'une causalité efficiente, naturelle. Vous tombez, et vous ne le vouliez pas, mais la nature est plus puissante que vous. Vous désirez vivre, et la nature l'emporte, et vous mourrez. Causalité efficiente au niveau du vivant. Et ainsi de suite, vous voyez. Alors, essayez de comprendre, à partir de là, quelle est la raison formelle de la causalité efficiente. Être source d'un mouvement, d'un devenir, dirigé, finalisé. Et peut-être immanent ou extrinsèque. L'un est artificiel, l'autre est naturel. L'un est volontaire, extrinsèque, et l'autre est naturel. Si on parle d'un mouvement vers le haut ou vers le bas, ne faut-il pas parler aussi du mouvement autour du soleil, tout à fait d'accord. Je ne l'ai pas nommé la dernière fois, parce que de fait, il vient après. C'est le mouvement circulaire. Il y a un mouvement naturel qui est circulaire. Les astres, comme les astres, je ne les connais qu'après. Je commence d'abord par les choses les plus simples. Et c'est à partir de là qu'Aristote pose la quintessence. Ça, nous verrons le problème. Pourquoi la lumière n'est-elle pas considérée comme un élément, étant donné qu'elle est une réalité physique? La lumière est une qualité. Alors pourquoi n'est-elle pas un élément? Parce qu'elle n'est pas une qualité. Lié au toucher. C'est à cause de ça. C'est les yeux qui voient la lumière. Autre question. Grâce aux expériences des cosmonautes, que je n'ai pas, l'attraction terrestre n'est-elle pas un principe extrinsèque de ce qui est mu? Ah, ça dépend, mais je vois pas très bien. Les astronomes ont une expérience ou quoi? Est-ce que c'est une expérience naturelle?
Non.
Ils sont emmenés dans un petit truc. Une automobile. À cause du mélange du mouvement quand ils vont sur la lune, mettent les pieds sur la lune, ils sont quand même aussi enveloppés. C'est pas très naturel. Je vois pas Adam aller tout nu sur la lune.
Toi.
y a une philosophie qui existe avant la science, et la science n'a pas détrôné la philosophie, même la philosophie de la nature. Mais elle oblige le philosophe de la nature d'être beaucoup plus prudent. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Il y a des tas de choses qu'Aristote affirmait et qu'on ne peut plus affirmer. Mais cela ne détruit pas la découverte de la nature comme telle. Alors si vous commencez par la physique moderne, vous serez dans une impasse. C'est comme quand on commence par les mathématiques pour rejoindre la philosophie première. On est dans une impasse. Vous ne pourrez jamais rejoindre la philosophie première par les mathématiques. Et vous comprenez pourquoi ? Puisqu'il y a la mise entre parenthèses du jugement d'existence. Donc vous ne pourrez pas. C'est une formalisation extrêmement intéressante, mais c'est une formalisation. Oui. Alors le cher cosmonaute, que j'aime beaucoup, c'est bien dommage qu'il ne peut pas nous faire une petite conférence. Ils sont un peu malades, tous les cosmonautes. Hein. C'est une expérience qui est dure à porter. Mais le cosmonaute, il est emporté par la science. Il devient, voyez, l'homme de la science. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est comme l'expérience que peut avoir quelqu'un qui fait des courses d'auto ou qui est en avion. C'est une expérience intéressante, mais artificielle. Elle n'est pas naturelle. Alors, elle peut être artificielle d'une façon telle qu'elle me fait oublier la nature. J'aime mieux vivre dans mon avion que de vivre sur ma planète. Parce qu'au point de vue vitesse, ça va plus vite. Mais il y a d'autres qualités vivre sur la planète. Oui. Alors c'est ça qui serait intéressant de voir. Qu'est-ce qui reste comme expérience naturelle chez le cosmonaute ? Étudier ça. Oui. Alors là, je vous répondrai, mais pas avant. C'est très très important, vous voyez, c'est très très important de aujourd'hui de voir exactement les limites de la connaissance physique, de la connaissance astronomique et de la connaissance de la Terre au point de vue scientifique. C'est très intéressant de les écouter, moi ça m'intéresse toujours beaucoup beaucoup de les écouter, d'écouter un savant c'est toujours très intéressant. Ça nous fait faire un petit voyage. Mais ne prenez pas les conclusions scientifiques comme un point de départ de la philosophie. C'est impossible. Oui, parce que l'homme est oublié. Volontairement. Oui. Ce qui est intéressant avec notre cher Jacques Vautier, c'est que lui, je vous dis, j'ai passé 3 jours avec lui là-dessus. Et il avait pris au moins 15 livres de la science moderne où il y avait des conclusions et comme il est intelligent, il avait saisi tout de suite l'acmé de ses livres, le point de vue. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Au point de vue philosophique, au point de vue de l'homme. C'est, je crois, très intéressant et très important de saisir ce que représente exactement la connaissance philosophique de la matière. Alors, ce qui est terrible, vous voyez, c'est que le savant emploie les mêmes mots que le philosophe. C'est ça qui est terrible. Or, il aurait dû avoir le respect d'un langage qui existait avant lui. Vous voyez, la critique que fait Gilson à Descartes, qu'il emploie un langage scolastique en donnant une nouvelle signification. Mais moi, je dirais la même chose pour la science moderne. Elle emploie des termes philosophiques en donnant une nouvelle signification. seul équivoque. C'est lorsque on emploie le même mot en donnant une nouvelle signification. Et constamment, c'est ça. Et c'est ça que la philosophie de la nature doit nous apprendre. J'ai un langage philosophique. Cette philosophie existe. Elle a été inventée par Aristote, parce que la philosophie de la nature a été inventée par Aristote. Si je veux la comprendre, je prends le point de départ, je dis tel mot a telle signification. Je sais que la science moderne donne une signification tout autre à chacun de ces termes. Mais faisons attention, parce que l'honnêteté consiste à dire j'emploie le mot matière dans un sens de philosophie réaliste. J'emploie le mot matière dans une connaissance scientifique. Après telle ou telle connaissance avec tel ou tel instrument. Oui. Autrement, c'est la tour de Babel. Et je crois qu'on vit la tour de Babel actuellement à cause de ça. Et la tour de Babel, l'homme ne peut plus comprendre l'homme. C'est pas étonnant, parce que le langage est fait pour communiquer. Or, on transpose un langage qui a été inventé pour telle connaissance, on le transpose pour telle autre connaissance, sans dire qu'on change de degré d'intelligibilité. Alors ça, on ne peut plus comprendre. Alors vous avez une lutte, alors qu'elle ne devrait pas du tout lutter. Il n'y a aucune raison que le philosophe soit contre le savant. Il n'y a aucune raison que le savant soit contre le philosophe. Si on cherche la vérité, on aime beaucoup que tout le monde cherche la vérité. Mais la vérité, elle est en référence avec l'intelligence humaine. Ou bien je dis, c'est une vérité mathématique. Qui n'est sans référence humaine. Donc c'est mathématique. Et c'est subordonné aux connaissances mathématiques. C'est comme la vérité logique. Elle est sans référence avec l'intelligence humaine. Elle est en référence au langage humain. La vérité logique au langage humain. Et alors par le langage humain, elle est en référence avec l'intelligence humaine. Et le langage mathématique est en référence avec la connaissance mathématique. Et la connaissance mathématique sait très bien ce qu'il atteint. Le vrai matheux. Vous voyez, c'est, autrement, on tombe dans la tour de Babel. Alors chacun met une signification différente. C'est ce que me disait Marois, donc celui qui a fondé l'Institut de la vie. Il me dit, on en arrive actuellement à faire que les plus grands savants ne comprennent plus les autres plus grands savants d'autres matières. Oui. Et c'est vrai, ça. Parce que le langage est tellement spécialisé qu'on arrive plus à s'entendre. C'est terrible, ça. Alors il devrait y avoir une référence, et cette référence devrait être l'expérience commune des hommes. Et c'est ce que le philosophe doit maintenir. Parce que le philosophe est là pour maintenir les droits de l'homme. Et le droit sacré de l'homme premier, c'est d'avoir un langage qui est en référence avec une connaissance réaliste. Je crois que c'est un droit sacré, ça. Autrement, vous avez un langage qui est mathématique. Or, le langage mathématique n'est pas le langage pratique de la bonne femme qui achète des navets ou des carottes. Oh, quand même, elle a le droit d'acheter des carottes et des navets. Elle a un droit à ça. Et j'ai le droit d'appeler une vache une vache. Mais il y a un langage humain qui relève sur l'expérience humaine. Autrement, à partir de ce moment-là, je suis cosmonaute des mathématiques. Et je fais tout le tour de mathématiques. Et j'ai un langage qui est uniquement réservé aux mathématiciens. le langage du philosophe doit rester un langage humain, toujours en référence avec l'expérience. C'est son privilège, alors il faut le maintenir à tout prix. Autrement, à partir de là, on dit n'importe quoi et on n'a plus de référence. Oui. Je crois que ça, c'est très très important. Alors on peut, ça a été fait du reste pas si mal par, sur la question de la philosophie de la nature, en montrant tous les moments où la science a changé.
C'est ça l'intérêt de la philosophie de la nature, c'est de toucher les
pas le droit. J'ai pas le droit de, voyez, de dire, bon, j'accepte, on va vivre maintenant en dehors de la nature, un monde purement artificiel après tout. Oui, mais si je fais ça, je n'aurai plus de contemplation, je n'aurai plus de finalité. Je deviendrai un robot. Qu'on acceptera dans la mesure où il est efficace. Une chose sera plus efficace, on le mettra dans, en prison, n'importe où, sans bonne importance, en attendant qu'il meure. On arrive à ça si on si n'est pas très attentif. Alors, je crois que enfin, le Seigneur reviendra avant. Enfin, je crois, tous les pions sont posés. Ils commencent à dire, mais ça y est, ça y est. Et c'est pour ça qu'on revendique philosophiquement si profondément le point de vue de la matière. Une matière qui est non pas la matière telle que le savant la regarde, qui est déjà conventionnelle. Parce qu'elle relève d'une expérimentation. Donc elle est déjà revêtue d'une expérience. Elle est saisie à travers un instrument. Alors je revendique la nature pure, la nature